Alright! Bonjour tout le monde, bonsoir, bonne nuit, bon matin, peu importe où ce que vous êtes. Maintenant,
bon matin!
Yes, sir, Mysterio, Mystère!
Tu mets quoi dans ton café, Pascal?
bientôt du cognac, mais pour l'instant, il n'y a que du café. Hein. Mais j'ai une bouteille de cognac à disposition pour me mettre un peu à niveau.
J'adore ta recette!
Il n'y a pas d'écouteur, t'as pas entendu? Mais oui, yes! Ouais, super content de t'avoir avec nous, le stagiaire, yes. Il est encore là, encore debout, après il ramasse des points de stage. Après maintenant, ouais, 16 heures de podcast back-à-back, ben quasiment back-à-back, on a eu des pauses grâce à Mysterio. Et là, à 4 heures du matin, on a décidé d'aller chercher des petits bennes européens, parce qu'eux autres, ils veulent se lever à 10 heures, pas... Il n'y a pas de Ben au Québec qui se dit oh, « on va se lever à 4h du matin pour faire une entrevue. Hein? » Hey, on a Pascal de Angry Silence. Comment ça va?
Ben, ça va pas mal. Je me lève quoi, tranquillement. Ouais. Je ne suis pas encore à votre niveau, là, mais j'essaye.
Ben, on est peut-être au même niveau. T'sais. Nous, on est fatigués. Toi, tu te réveilles. Hey, je te laisse en entrée de jeu. Présenter le projet, comment que ça a commencé, qu'est-ce que tu fais dans le projet, ouais. Je te laisse nous expliquer ça. Donc.
Eh ben, Angry Silence, on avait commencé ce groupe-là quelques mois avant le premier confinement, je ne me souviens plus exactement de la date. En gros, on était prêts au moment du premier confinement, en tout cas le premier confinement en France. Du coup, on n'a pas joué pendant un petit moment. En fait, on a fait notre premier concert. Ça faisait plus de 6 mois qu'on était déjà prêts. Et du coup, on en avait profité pour faire une démo avec un 4-piste cassette à ce moment-là, pour commencer un petit peu à voir ce que ça pouvait donner. Et puis, j'avais envie de revenir à un truc. En fait, j'utilisais ce 4-piste cassette déjà dans les années 90. Et je voulais revenir à un truc comme ça. Et moi, du coup, je fais la guitare dans Angry Silence. C'est moi qui compose à peu près toute la musique, mais pas les paroles. Mais pas les paroles, quoi. Et on est 5, c'est 2 guitares, basse, batterie, un chanteur qui ne fait que chanter. Voilà.
Ok, cool. Fait que c'est ça. Toi, dans le fond, dans la composition, toi, t'arrives vraiment avec des maquettes, dans le fond, pour tout le monde un peu. Puis vous bâtissez à partir de ça, dans le fond.
Exactement. Je fais plein de propositions de musique et puis on fait le tri. Et surtout, c'est Manu le chanteur qui nous dit quand il se sent de chanter sur quelque chose, quoi, tu vois. Mais là, j'en aurais vraiment fait plein. J'en ai fait une quarantaine là, depuis le mois de novembre. Oh, et on est en train de travailler là-dessus. Ben ouais, mais écoute, c'est entre les histoires de confinement, le fait que ma copine est malade et que je peux pas trop bouger, ben en fait, je bosse beaucoup à la maison et du coup, j'ai énormément composé, j'ai mis beaucoup de ces ressentis-là, tu vois, dans cette musique. Et puis voilà, c'est mon exutoire, enfin, c'est un de mes exutoires, quoi. Voilà.
Puis justement, t'as-tu trouvé, ben, c'est sûr que c'est plus musicalement, mais est-ce que le confinement t'a des fois ralenti dans ta création ou ça t'a vraiment propulsé un peu plus dedans au vu départ, que tu pouvais te concentrer plus là-dessus?
Au départ, ça m'a bloqué. Comme pas mal de gens, enfin, pas mal d'amis musiciens, en fait, c'était assez partagé. Il y en a qui se sont mis à fond. Et moi, j'y arrivais plus. Parce qu'en fait, tout mon équilibre est reposé aussi sur le fait de faire des concerts. C'est aussi en montrant les nouvelles choses sur lesquelles j'avais travaillé à des gens que j'avais des retours et que je savais comment avancer. Et du coup, ça m'a demandé de revoir toute cette dynamique-là. Mais après, j'ai repensé à toutes ces histoires de faire des maquettes. Et j'ai repensé à Robert Pollard de Guided by Voices qui en faisait des tonnes, enfin qui en fait toujours des tonnes, qui a composé plus de 1500 morceaux comme ça. Et je me suis dit qu'il fallait que je rentre dans une dynamique comme ça et que je lâche pas l'affaire. Mais ça a été plutôt à partir de... C'était pas le premier confinement, c'était quelques mois après, quoi. Le premier, j'ai vraiment pas été productif. Et puis ici, il faisait juste un temps magnifique. On se débrouillait juste pour partir de notre maison, aller se balader dans la campagne, mais pas tellement bosser sur de la musique, quoi.
Toi, exactement, t'es situé à quel endroit en France?
Je suis en Bretagne.
En Bretagne,
la
non,
Bretagne,
excuse.
ouais, le, dans le, oh, mais non, il n'y a pas de souci, c'est le nord-ouest de la France, quoi. Et puis moi, je suis dans un petit village qui s'appelle Le Vieux Marché, qui en gros est entre Brest et Rennes. On est à 1 heure de Brest. Brest, c'est vraiment la ville qui est tout au bout, la petite pointe de l'Hexagone, ben, c'est Brest.
OK.
Et voilà, c'est une région qu'on appelle le Trégor, qui est une région très à gauche politiquement, enfin, historiquement, qui a toujours été comme ça, ce qui est un peu particulier pour un endroit rural, parce qu'en général, les endroits, tu vois, où c'est très rural, en général, c'est très à droite, donc c'est assez particulier. Il y a même c'est assez étrange, dans mon village, il y a un pèlerinage islamo-chrétien, ce qui est un peu saugrenu, tu vois, au fin fond de la Bretagne. Et du coup, c'est assez marrant. Et tu vois, par exemple, c'est la mairie de mon village, c'est d'extrême gauche, tu vois. Pour un petit village, c'est vraiment très étrange.
Ah ouais, je comprends.
Moi, je
Puis,
vais me servir un cognac.
ah ouais, vas-y, sers-toi. Nous autres, on est sa boisson énergisante. Non.
Très bien, vous avez raison, sinon vous ne pourriez pas tenir.
Moi, je viens de finir un rhum il n'y a pas trop longtemps, là, une petite boisson
Ah!
énergisante. Puis
Ah oui.
après ça, on va reprendre un autre rhum.
Ben, t'as raison, comme ça on va pouvoir trinquer, ouais.
Ben oui, ben oui. Puis, justement, est-ce que. T'sais, le confinement, ça a-t-il été aussi radical, mettons, que. Parce qu'on a entendu un peu plus parler de ce qui se passait, mettons, en France, puis Paris, puis tout ça. Est-ce que ça a été aussi radical que ça chez vous, ou vous étiez un petit peu
Alors,
plus libre?
j'ai envie de dire que ça dépend des endroits où tu trouvais. Enfin, de ce que j'en sais, parce qu'en fait, moi, j'ai pas trop bougé, contrairement à d'autres. Mais j'avais quand même pas mal d'amis qui continuaient à bouger, hein, qui en avaient un peu rien à foutre, ou qui se débrouillaient avec des autorisations diverses et variées pour pouvoir bouger. Nous, on pouvait faire à peu près ce qu'on veut, parce que nous, on est à la campagne, donc si tu veux, les gendarmes, ils n'étaient pas non plus à attendre à chaque coin de rue. Et puis, il y a plein de petites routes et il suffisait, nous, il y avait plein de petits trucs, comme les autorisations de sortie étaient valables, je ne sais plus, pendant un certain nombre d'heures, c'était, je sais plus, 1 heure ou 2, eh ben, tu te préparais, tu vois, 5 autorisations de sortie avec 1 heure différente. Et puis après, il
Fuck
suffisait de sortir,
the
voilà, on fait ce qu'on peut, quoi. Tu vois, on fait ce qu'on peut. Mais
system.
après, on voyait pas grand monde parce qu'il y avait pas mal de. Nous, on a pas mal d'amis qui sont dans des petites communautés punk, tu vois, ici à
Ouais.
la campagne, et qui ont un peu fermé leur lieu parce que bah, ils avaient pas envie de se faire contaminer, comme ils étaient assez nombreux dans ces lieux-là, et qu'il y avait enfin, il y avait aussi des personnes fragiles dans ces lieux-là. Et ben. Ils ouvraient plus trop leurs portes, quoi. Du coup, on voyait pas énormément de gens. On était quand même assez isolés, moi et ma copine, quoi.
Ok.
Et après, on faisait une émission de radio, justement. Donc ça, c'était assez rigolo.
Ah oui, vous êtes parti ça durant le confinement. Un petit
Ben
podcast,
ouais.
là.
Ouais, c'est ça. On faisait un truc. C'était la radio des confins, ça s'appelait. C'était une radio autogérée qui s'est montée en Bretagne. Et on faisait ça le samedi soir.
Ok.
C'était comme juste une énorme fête. On commençait l'émission vers 22 h jusqu'à tomber raide bourré, quoi. C'était un peu
Comme nous, là. C'est
un
notre
peu ce
plan.
goût-là, ouais.
Mais il faut pas qu'on tombe, nous autres.
Non, faut pas, faut pas.
Puis c'est ça, justement, je trouve ça intéressant que, tu sais, il y a une petite communauté punk, puis tout ça. Comment que tu t'es rentré en contact, justement, avec cette culture un peu marginale, la contre-culture punk, dans, justement, une région comme la tienne? Puis quelle. Qu'est-ce que ça. Quel pourcentage, mettons, de. Non, pas pourcentage. Attends une
Quel
minute.
impact ça a eu?
Ouais, quel impact a, justement, la communauté punk dans des régions rurales comme la tienne?
Alors, je vais revenir un petit peu en arrière. Du coup, moi, j'ai grandi dans la banlieue de Paris. Bah, vous parliez de rap juste avant. Bah, moi, je viens du 93, d'où venait NTM, que vous connaissez certainement, quoi. Et il y a une ville dans le 93 qui s'appelle Montreuil, qui a cristallisé un petit peu toute la culture punk alternative française dans les années 80 avec tous les squats qu'il y avait, les Béruriers Noirs, etc. Et du coup, bah, moi, quand je me suis mis à
Les
la musique,
Bérus, je sais, on les a
les Bérus.
affichés.
Ah, ben voilà, ouais, bien sûr, bien sûr. Et du coup, bah, moi, je suis de 1980, donc j'étais un petit peu petit pour vraiment traîner dans cette première génération, tu vois, de squat des années 80. Néanmoins, quand je me suis mis à la musique, que j'ai commencé à m'intéresser au punk, à un moment, j'ai pris quelques cours de guitare. Et le guitariste qui était un bluesman, et ben il jouait dans un groupe de punk. Et ce mec m'avait invité à venir voir, je devais avoir 15 ou 16 ans, tu vois. Il m'avait invité à venir voir un concert de son groupe de punk dans un petit bar associatif qui était dans un centre commercial à Montreuil, tu vois.
Ok.
C'était complètement improbable parce que tu avais vraiment au milieu de ce centre commercial, tu vois, une bande de freaks punk, tu vois, qui squattaient tu vois, le centre commercial. J'ai trouvé ça assez fascinant et du coup, j'ai commencé à traîner avec tous ces gens. J'étais assez timide, donc je ne me suis pas tout de suite inséré là-dedans. C'est paradoxalement quand j'ai été contacté par des groupes DIY punk américains que j'ai commencé à vraiment essayer de m'impliquer dans la scène punk pour organiser des concerts pour ces groupes américains qui venaient en France. Et puis, très rapidement, je me suis retrouvé à jouer en Bretagne parce que la Bretagne, c'est certainement la région la plus rock en France,
OK.
tu vois. Certainement, du fait du lien de la culture bretonne avec la Grande-Bretagne, parce qu'en fait, c'est un petit peu la même culture, quoi, si tu veux. Sachant que ben, en Bretagne, il y a même un dialecte breton, tu vois. Il y a un truc assez particulier ici. Il y a toujours eu une scène punk très active. Et du coup, moi, au bout d'un moment, j'en ai eu marre de la banlieue parisienne. Et du coup, quand s'est posé la question de où est-ce que j'allais partir, ben, très rapidement, c'est la Bretagne qui m'est venue en tête parce que les gens sont super, ils s'organisent hyper bien. Enfin, en tout cas, disons du côté éthique un petit peu dans
Ça te
ce dans quoi
rejoignait
je
plus.
m'inscris. Voilà, c'est ça. Et du coup, pour revenir ensuite à ta dernière question, l'impact du punk en Bretagne serait compliqué de dire à quel point tu vois il y a beaucoup de punk. Je dirais quand même que comme un peu partout en France, c'est quand même assez vieillissant. Il y a de moins en moins de nouvelles générations qui arrivent, même si il en arrive quand même, quoi, tu vois. Mais je trouve, par exemple, que la ville de Brest, dont je vous parlais, là, qui est au bout de la pointe de l'Hexagone, pour moi, c'est la seule vraie ville rock en France, quoi. Tu vas à Place Guérin, d'ailleurs, j'y suis allé hier, et ben tu vois tous les petits bars et tous les gens qui sont en terrasse, c'est que des punks, quoi, tu vois. Et ça, c'est assez. Tu verras pas ça dans le reste de la France. Tu verras pas ça à Paris, certainement pas à Paris, qui s'est beaucoup trop embourgeoisé
Tu viens de
pour
me
avoir.
nommer ma nouvelle destination de
C'est vrai?
rêve. Jusqu'à la semaine passée, c'était rendu le Traxid. À ce temps, je vais aller là.
Ah
Non,
ouais.
non.
C'est juste un peu plus cher de gaz.
C'est drôle parce que ça, lui, il est Kevin. Là, ça fait une couple de fois qu'on en parle, mais tu sais, il est vraiment plus de la culture. Oh, tu nous as-tu? Yes? Tu nous reçois? Ouais, c'est quand?
Ouais,
Ouais?
je suis
Ok.
revenu, ça freeze.
Kevin, tu sais, il est plus dans la culture rap et tout ça. Puis moi, j'ai toujours été un peu plus dans la culture punk. Puis à Montréal, on a un endroit vraiment qui est plus.
Mythique.
Ben oui, un endroit mythique pour la scène punk underground
Les
de la
foufounes
ville. Puis,
électriques.
non, c'est pas les foufounes électriques, c'est
Oh,
foufounes
plus
électriques,
underground.
c'est rendu trop mainstream. Là.
Ah ouais, ah tu
Non,
vois, je savais pas.
mais
Ben,
c'est il y a un bon
quand tu
background.
jases avec un gars de Grande-Bretagne puis qui te colle les foufounes électriques, c'est que c'est rendu trop grand public.
Là, ça s'appelle le Traxid, puis c'est justement un peu fait sur. Le modèle des squats punk européens, justement, qui est tout. Tu sais, c'est une vieille place où ce que les punks sont rentrés là-dedans, ils se sont fait des logements, il y a des trucs de création, ils ont fait un genre de bar clandestin à travers ça, où ce qu'il y a des shows, c'est Bring Your Home Beer, puis ça fume en dedans, puis c'est all age, mais je t'amène pas ton enfant là, là, tu sais. Mais on est allé là, on a fait un enregistrement justement du podcast dans cette salle-là, puis Chris, on a trippé toi et deux ben raide, puis là, tu nommes cette ville-là, Chris, je veux aller là, là. L'année prochaine, mon gars, check nous bien enregistrer en Bretagne. Non, non.
Ah, ben, t'hésites pas. Nous, on a de la place hein, à la maison. En plus, on a une gare, pas loin, donc il y a même moyen de venir en train, tu vois.
Yes! Faut pas juste hésiter. Prendre l'avion pour se rendre. Non, non. Puis, ouais, fait que là, t'arrives en Bretagne.
Ah, je t'entends mal.
Oh, tu m'entends mal? Allô?
Là, je t'entends, ouais.
Yes. T'arrives en Bretagne, comment tu te sens justement, là, tu pars parce que t'es tanné de cette banlieue-là, tu veux t'en aller dans un endroit où que tu crois que ça te ressemble plus. Comment que tu arrives là, comment que ça se passe, ton changement de place?
Eh ben, ça s'est hyper bien passé. Après, je connaissais déjà pas mal de gens, notamment des groupes pour lesquels, parce que je fais aussi un petit label, et du coup, je sortais déjà des disques pour des groupes bretons. Donc il y avait pas mal de j'avais déjà pas mal d'amis dans cette communauté là, tu vois, en Bretagne. Mais ce qui m'a plu aussi en arrivant dans mon village, c'est que je me suis mis aussi à traîner avec des gens au-delà de la communauté punk, tu vois, juste des gens qu'on pourrait dire normaux entre guillemets, tu vois, et ça m'a fait du bien. Le seul truc qui m'a fait bizarre et que j'appréhendais un petit peu, c'est que moi, je venais du 93, j'habitais dans une cité HLM, on appelle ça, je ne sais pas comment vous dites, vous autres, au Québec, mais c'est les logements...
Habitation à logement modique.
Et du coup, dans mon quartier, c'était essentiellement une communauté noire. C'est un peu comme à Hochelaga, je dirais, peut-être, tu vois.
Tu connais donc bien Montréal, toi.
Ouais, c'est cool, hein.
Tu connais donc bien Montréal, toi.
Ah, un petit peu, ben, mine de rien, on a aussi des Québécois en Bretagne, parce que notamment juste à côté, les maraîchers bio, c'est un couple, et ben la nana, Jamie, elle est Québécoise, tu vois.
Okay.
Et on a aussi un autre pote là, dans une communauté punk là, juste à côté, qui est Québécois, qui est reparti d'ailleurs en Amérique du Nord. Il nous a laissé, mais du coup, oui, ben, on s'intéresse. Comme on se disait tout à l'heure en off, on s'intéresse à ces cultures mutuellement, je crois, tu vois. Et bref, pour en revenir à ce que je disais, le seul truc que j'appréhendais, c'est que du coup, ici, c'est très, très blanc, tu vois, en Bretagne. Et du coup, c'est vrai qu'au départ, ça me... cette absence de diversité, tu vois, ça m'a fait un peu bizarre. Mais en fait, c'est hyper ouvert, quoi. C'est juste la position géographique de la Bretagne qui fait que pour arriver en Bretagne, comme c'est sur le chemin d'absolument rien, il faut vraiment le vouloir pour arriver là-bas. Quoi. Tu vois, c'est ça qui est
assez étrange. Tu n'apparais pas là juste comme ça. Là.
Tu débarques du train parce que c'est la dernière station.
Ouais, voilà, mais c'est ça. Tu t'es endormi et puis tu te réveilles à Brest. Quoi. Merde, je suis au bout du monde. Quoi. Au bout du monde. L'étape d'après, c'est Amérique. Quoi. Non, c'est vrai. Brest fait carrément face à l'Amérique, quoi. Tu vois, c'est ça qui est rigolo aussi. Enfin, bon.
Un voisin un peu loin.
Un peu loin. Un peu loin. Je pense pas que j'irai à la nage, en tout cas.
Non, ouais. Bon. Alors, il faudrait que tu sois motivé en esti de traverser ça à nage. Alors, juste ceux-là qui font ça, y en a une Québécoise là, qui a fait ça, genre de un genre de kayak un peu.
Ah, je sais pas.
Ouais, c'est un canot, je sais pas trop, là. Puis tabarnak, ils sont motivés.
Ah oui.
Calice. Mais si, là, on va revenir un peu plus sur ton côté musical, parce que là, on parle de tes déplacements un peu, on a parlé aussi de ta connexion avec le punk, comment que ça s'est produit. Comment que toi, tu commences à jouer de la musique? Quel moment que tu t'intéresses à la musique, tu dis, je joue d'un instrument, puis je me lance?
Bah, je crois, comme beaucoup de gens qui sont nés autour de quand je suis né, c'est-à-dire 1980, le moment où il y a Nirvana qui arrive, c'est le moment où j'ai pris conscience qu'en fait, enfin, déjà que j'avais envie de faire ça, parce qu'en fait, enfin quelqu'un qui semblait un petit peu nous ressembler, d'un coup se retrouver comme ça dans les médias en France. On voyait même à la télé Nirvana, on entendait ça à la radio. Et là, on s'est dit, on était beaucoup à se dire que c'était possible de faire des groupes. Et puis, il y avait ce documentaire 1991 de Rear Pump Rock, le truc de Sonic Youth avec toute cette tournée avec Nirvana et Dinosaur Jr. et tout ça. Et cette vidéo, c'est vraiment quand j'ai vu ce film que ça m'a hyper donné envie de faire des groupes et de partir en tournée. Et du coup, au départ, je faisais un peu plus du métal. Et puis assez rapidement je suis passé du côté punk parce que l'éthique punk me parlait beaucoup plus, si tu veux. Donc mais voilà, c'est par, en fait, grâce à Nirvana, ça m'a ouvert vraiment des portes vers tous les classiques punk déjà, et puis vers d'autres choses, des choses plus pop comme les Vaseline's, des choses plus hybrides comme les Wipers, tu vois, et puis bien sûr Sonic Youth qui après. Une fois que je me suis ouvert à Sonic Youth, ben là, je me suis intéressé au jazz, à la musique expérimentale et à plein, plein d'autres trucs, quoi. Et du coup, ça a commencé à m'ouvrir à plein, plein de choses. Et à essayer aussi de... Comment dire? Je me suis mis aussi à comprendre que le punk, c'était pas tant une norme esthétique, tu vois. Enfin, qu'il fallait pas que ça devienne une norme esthétique, mais que c'était plus... une démarche et une manière de voir les choses et de remettre en place de la solidarité, quoi.
Voilà. C'est, du coup, je suis tellement content que tu dis ça, là, que le punk, c'est pas une éthique, là, de... Tu sais, c'est une éthique mentale, mais c'est pas une éthique vestimentaire, tu sais. Puis ça, c'est une conversation que j'ai eue souvent avec des amis, justement, de... Chris, vous êtes tellement punk, les gars. Puis tu sais, moi, j'ai lui qui a le look le plus punk, tu sais, avec ma jeune veste tout patché, des studs, puis... Mais... Et puis là, il va regarder, on n'est pas punk, aussi, parce que c'est des ingénieurs, puis ils sont plus souvent en cravate avec une chemise, si je dis, ouais, mais... Chris, le chanteur de Bad Religion, là, c'est un doctorat, là, c'est un docteur, il a fait des doctorats, c'est un professeur, puis tu le regardes, il a pas l'air d'un... Visuellement, il a pas l'air d'un punk, là. c'est pas ben ça, ouais. C'est toute votre mentalité, les gars, après... Vous l'êtes, nous autres, on avait un gros festival qui s'appelle le Rockfest. T'sais, vous êtes au Rockfest à tous les ans, vous n'en manquez pas un parce que vous tripez cette musique-là, vous l'appliquez, la mentalité. T'sais, c'est surtout une mentalité en arrière de tout.
Ben oui. Oui, oui. Bon, après, je pense que chacun a le droit de se réapproprier la chose comme il veut et c'est aussi ça la force du punk, ouais. Je crois. Tu vois, il y en a qui peuvent considérer que c'est un style de musique. Il y en a qui le voient du côté éthique, il y en a qui mélangent ces choses-là, il y en a qui vont avoir encore d'autres idées de la chose. Mais c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est pas un truc imposé, c'est quelque chose qui est ouvert et qui, pour moi, fait écho au mouvement Dada, tu vois, qu'il y a eu en France, en Suisse, tu vois, avec Marcel Duchamp et tout ça. Pour moi, Marcel Duchamp, c'était un punk avant que les punks existent, quoi, okay. Si tu veux. Bref, enfin voilà, à chacun de se réapproprier la chose, c'est ça que je pense.
Puis il y a une affaire là. Est-ce que vous avez pas mal de ça, vous, en Bretagne, des polices du punk?
Des polices du punk.
Ça, pas assez punk. Ça, c'est pas punk parce que c'est pas le punk qui écoute.
Eh ben ça, c'est plus un phénomène de grande ville, je dirais.
Ouais.
Pas tellement ici.
Non.
Pas tellement ici. Non.
Si vous êtes chanceux. Non.
Ouais. Non, non, mais la communauté punk en Bretagne est quand même vraiment très ouverte et c'est des gens très, très gentils et accueillants, quoi. Vraiment. C'est pas du tout comme certains punks de grande ville qui se regardent, tu vois, qui sont plus hipsters et plus, tu vois, plus... comment dire, snob, voilà, ouais. c'est le mot en fait.
Ouais.
Aussi plein de snob dans la communauté punk.
Qui va un peu à la contre-culture du punk. Être snob, c'est crissement pas punk.
À des moments,
ça police du punk,
t'es devenu police du punk, c'est ce que j'allais dire.
Je suis police du punk. Mais cool, man, puis. Le punk, souvent, on va dire c'est engagé, ça dénonce beaucoup. Comment que le punk est dans votre musique, c'est comment elle se reflète, oui, musicalement, mais au travers de vos textes, comment vous appliquez cette éthique-là dans votre musique?
Bah, écoute, Manu, le chanteur, c'est quand même quelqu'un d'assez... J'ai pas envie d'employer le mot militant, je suis pas sûr qu'il aimerait que j'emploie ce mot-là, mais c'est quelqu'un qui participe à pas mal d'actions antifascistes et divers actions, comme quand ils organisent, pour le Nouvel An, ils organisent en général une sorte de carnaval devant une prison, tu vois, à Brest, pour tenter de faire une animation pour les gens qui sont dans la prison, tu vois, il fait plein de trucs comme ça, et puis c'est quelqu'un qui vient comme à peu près tout le monde dans ce groupe de famille de gauche, avec vraiment ces notions que j'utilisais tout à l'heure de solidarité qui sont très très fortes dans toutes nos familles. Et même si nos familles ne viennent pas exactement des mêmes gauches, Manu, le chanteur, son père était plutôt anarchiste, tu vois, et plutôt militant pour le droit des personnes qui sont en situation de handicap, quoi. Okay. D'ailleurs, c'est lui qu'on voit sur la pochette de notre disque. On le voit de dos dans sa chaise roulante. Et en fait, il avait organisé une association qui organisait des soirées de soutien pour collecter des fauteuils roulants et les apporter jusqu'au Pérou. Et en fait, la pochette du disque, tu vois sur le recto, c'est le départ vers le Pérou. Et de l'autre côté, c'est l'ouverture du conteneur une fois arrivé au Pérou.
À destination.
Et du coup, Manu, il y a toujours un contenu, enfin toujours. Souvent, il parle de choses politiques, mais sans être didactique, quoi, si tu veux. Il n'est pas... Et je crois que je partage aussi ce truc-là. On n'est pas à scander des grands slogans et des...
Vous n'êtes pas à la BRU,
des grandes solutions. Mais... Oui, non, c'est vrai que c'est pas le même, c'est pas exactement la même chose. Même si les BRU, je dirais pas qu'ils étaient didactiques, tu vois. Ça restait ouvert et si tu veux, il y a pas mal de gens qui se moquent des BRU dans la scène punk française. Moi, j'ai énormément de respect pour eux. Et puis, je trouvais que ce qu'ils racontaient, ils avaient justement quelque chose de très porteur, quoi. Mm-hmm. Très porteur. Mais en tout cas, pour en revenir à Manu, il mélange un petit peu beaucoup de choses, son expérience personnelle avec ses ressentis politiques. Mais encore une fois, il n'est pas à dire aux gens, voilà, j'ai la solution. Et voilà, c'est ça qu'il faut faire, quoi.
Amener à réfléchir, mettons, à travers ses textes, à se remettre voilà. En question. Puis...
Ouais. En tout cas, il arrive à se raconter et je crois qu'il arrive à mieux se raconter que dans la vie. C'est quelqu'un d'assez réservé dans la vie. Il est assez timide, quoi. Et il a du mal à exprimer ses sentiments, souvent, quand on discute tu vois, comme ça avec lui en soirée. Et là, il y arrive beaucoup plus. Enfin, c'est assez touchant à chaque fois qu'il arrive et qu'il place ses textes. Bref, voilà, j'aime beaucoup ce mec.
Mais c'est le fun de voir, tu sais, de te voir l'exprimer de même. Tu sais, t'as de l'air de, tu sais, je dirais pas une admiration, mais tu sais, d'avoir un gros, gros respect pour son travail, pour ce qu'il fait, pour la personne qui est, puis ça a de l'air de, tu sais, ça, je pense que ça prend ça dans un band. Tu sais, il faut que t'aies cette confiance-là, cette dynamique-là avec tes partenaires, justement, que vous êtes concentré sur les mêmes idées, les bands s'en vont dans la même direction, il n'y a pas de divergure trop, puis...
Divergence,
en tout cas.
C'est pas grave.
C'est quoi, t'es rendu dictionnaire, là?
Non? À partir de maintenant, je fais juste te corriger, j'ai plus d'opinion, je suis plus capable de réfléchir. Fait que je fais juste te corriger, puis ça va être ça pour les 10 prochaines heures.
Tabarnak.
Et en tout cas, pour rebondir sur ce que tu dis, ce respect, il est vraiment entre les 5 personnes quoi, du groupe. On se respecte énormément et on est des personnes très différentes. On ne sait pas tous faire les mêmes choses, mais tout ça est très complémentaire. Et moi, j'ai joué avec beaucoup, beaucoup de gens, mais c'est la première fois qu'il y a une véritable osmose comme ça, entre les cinq. On se comprend, on a envie d'aller dans la même direction, et on se fait confiance, quoi. Et on arrive à se parler aussi. Ça, c'est hyper chouette, parce qu'il y a des groupes où... Alors, je ne sais pas si c'est la culture française ou quoi, mais y a des gens qui n'arrivent pas à se dire quoi, quand y a un souci, quand il y a un truc, et il faut résoudre ça tout de suite, quoi, parce que après les choses, elles deviennent larvées. Et puis,
ça prend de l'ampleur pour rien.
Ben voilà, ben ouais, les choses s'accumulent, et puis après, après c'est trop tard au bout d'un moment. Quoi. Mais là, non, il y a une super dynamique. Il y a une super dynamique. Ouais.
Ah, c'est le fun. Puis toi, comment justement, tu dis que c'est toi qui compose musicalement beaucoup dans le groupe. C'est comment ton procédé de composition justement? Tu as l'air d'avoir beaucoup d'influences, de beaucoup de genres, puis tout ça. Comment tu merges tout ça dans ta tête pour sortir le son Angry Silence qu'on peut entendre?
Il est venu un peu tout seul. Au départ, Manu, du coup, le chanteur, il voulait qu'on fasse un groupe plus garage à la Dead Moon. Je ne sais pas si vous voyez ce groupe de Portland aux États-Unis. Et puis, j'ai commencé à essayer de faire des choses un peu dans ce style. J'en ai fait un petit peu, mais je n'y arrivais pas très bien. Et assez naturellement, je suis revenu à mes influences, justement, quand j'ai commencé à écouter tout ça. Là, je parlais de Nirvana, mais tous ces groupes, plus ou moins de cette période, en tout cas des années 90, me sont revenus naturellement, sachant que je ne savais pas du tout jouer cette musique à l'époque, quoi. Comme je te disais, je faisais du métal et puis après, je suis rentré dans le punk. Mais maintenant, avec tout ce recul, si tu veux, d'avoir écouté tous ces trucs depuis longtemps, j'ai l'impression que c'est rentré vraiment en moi, tu vois. Et hyper naturellement, je me suis mis à revenir à ce son. Et sinon, par rapport à ta question sur comment je fais pour composer, là, ça commence à faire, je dirais, un an que je m'impose de ne pas bosser à l'avance ce que je vais enregistrer. Je descends dans mon local, dans mon petit basement, là, juste en dessous. Je prends 5-10 minutes pour réfléchir à un morceau à la guitare, avec une structure très, très simple, qui peut être temporaire, mais qui sera peut-être le truc final. J'enregistre ça en moins de prises possible. En général, de toute façon, la première guitare, je la refais à la toute fin, de toute façon. Et puis après, okay, je construis comme ça. Je mets une deuxième guitare ou une basse, et puis une batterie que je tape en direct sur une boîte à rythme, en fait, pour éviter de faire trop de boucan tout le temps dans la maison.
On se démerde et comme on peut aussi.
Ben voilà, c'est ça. De toute façon, c'est pour faire la démo.
Ben oui, c'est ben ça, ouais, c'est les maquettes.
Ben ouais. Mais moi, mon idée, c'est d'aller le plus vite possible pour laisser parler le plus l'instant, mm-hmm, en fait. Il va y avoir encore de temps en temps des morceaux que je vais bosser, tu vois. Je vais avoir une idée, puis je le bosse là avec la guitare, je me balade dans la maison, je réfléchis. Je réfléchis à la structure, à comment améliorer le truc.
Tu fais ça de maquette?
Comment, pardon?
Sais-tu comment que moi, je monte ça de maquette pour une chanson?
On n'entend rien parce que c'est trop proche de nous autres.
Change de pièce!
Change de pièce, c'est sûr.
Sais-tu comment je fais ça, moi, une maquette?
Il veut savoir si tu sais comment qu'il fait ça, une maquette.
Ah ben, moi, je veux bien savoir, ouais. Vas-y, explique.
T'arrives, là, c'est tout le temps le même début. Do 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 ré, do 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 fa, do 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 ré la ré dra la.
Pas mal.
C'est tout.
Bon, ben ouais. Chacun sa recette. Hein.
Ben oui. Mais c'est le fun, tu sais. Je pense que depuis aujourd'hui, t'es pas mal le premier qui nous dit, tu sais, qui compose vraiment pas mal tout dans nos entrevues qu'on a eues.
Ouais, on en a eu un autre, là, je pourrais plus te dire qui est rendu à cette heure-là, mais ouais. C'est un processus. Ouais,
il n'y en avait pas d'autres. Tu es le premier, Pascal.
Bref, c'est sûr que juste après qu'on soit revenu En tout cas, le fait de monter des maquettes puis d'amener ça au band, là, ouais, c'est quelque chose, un processus plutôt rare.
Ouais, mais c'est ouais. Ça, puis est-ce que des fois, ça te touche un orgueil, mettons que ta maquette, ça passe pas, là?
Non, pas vraiment. Non? Pas vraiment. Non, et ça, c'est un autre truc qui est très, très bien chouette d'avoir. Dans ce groupe, c'est que tout le monde laisse son ego de côté. Nous, notre idée, c'est d'arriver à faire des bons morceaux d'Angry Silence et que tout le monde soit content de les jouer. C'est ça qui est important. Ah, ouais. Moi, de toute façon, s'il y a des trucs que les autres n'aiment pas ou ils n'ont pas d'idée, ils se disent que ça ne va pas le faire, de toute façon, si je les trouve bien, je vais les maqueter dans mon coin et je vais les terminer. Quoi. Tu vois, j'ai un peu ce projet-là. Une fois qu'on aura fait là, le deuxième album, je vais récupérer tout ce qu'on n'a pas retenu, faire un tri encore dedans et me faire un truc tout seul, quoi, tu vois. Okay. Très low-fi avec tu vois, un peu la méthode que je t'expliquais, peut-être pour la batterie faire un peu mieux quand même, mais faire très low-fi et finir ces morceaux-là. Donc c'est pas grave, enfin tu vois, et de toute façon il faut mettre des trucs à la poubelle, faut pas, enfin tu vois. Je pense que c'est rare les gens qui mettent pas à la poubelle, quoi. Enfin, en tout cas, il faut.
Mais c'est normal d'en mettre, là. Ça,
mais
c'est
ouais.
Ça. Mais il y en a des fois qui font plus mal au cœur que d'autres.
Ouais, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Il y a des moments où on n'y arrive pas, ça donne rien. Et puis c'est pas grave, sinon tu fais ta maquette dans ton coin, tu vois. Et ouais, non, je crois qu'il faut savoir jeter, quoi. C'est hyper important. Hyper important.
Non, oui, clairement. Puis justement, là, tu parles d'un deuxième album qui s'en vient. Vous êtes dans l'écriture, là. Tu disais que tu avais une quarantaine de chansons de fête. Comment la sélection justement des chansons va se faire? Est-ce que vous avez déjà quand même une idée de la direction que vous voulez prendre pour cet album-là?
On n'a pas d'idée directrice très définie. Disons que là, on est en pleine discussion, essayer de voir quels morceaux on va prendre, mais c'est surtout Manu qui a le dernier mot, parce que c'est à Manu, le chanteur, du coup, de se sentir, de mettre du chant là-dessus, quoi, et que ce morceau lui donne une idée. Donc, il a un peu le dernier mot sur la sélection finale, même si tout le monde a un petit peu dit ce qu'il aimait, ce qu'il aimait pas, tu vois. Et
ouais, parce que ça va pas bien si on n'est pas capable de mettre de paroles à la toune, non?
Ben non, c'est... Et là, du coup, on a une moitié d'album déjà de composer et prêt. Et on va voir, enfin, peut-être qu'on en mettra beaucoup plus en place que ce qu'on pensait pour pouvoir resélectionner encore derrière. Parce que je pense qu'on va les remaqueter avant de faire le disque. Ça, j'y tiens vraiment, et on est tous d'accord sur ce truc, que c'est hyper important de voir comment ça rend déjà enregistré, pour savoir ce qu'il faut encore rectifier, les petits détails, les petites choses, pour que ce soit un disque agréable à écouter à la maison, quoi. Parce que c'est une chose d'arriver à faire des morceaux que tu joues devant les gens et que ça marche, mais c'est une autre de faire un truc qui va marcher à la maison, quoi. Mmh. Et du coup, ce truc, il est important à réfléchir. Et, du coup, on va remaqueter tout ça avant de faire le disque. Et je pense, pareil, on va le maqueter très low-fi, certainement aux 4 pistes. Parce qu'au moins, là, il n'y a pas, tu vois, tu ne peux pas tricher avec un 4 pistes. Tu sais tout de suite si le morceau, il vaut le coup. Et surtout, il faut faire des belles interprétations, sinon ça ne sonne pas, parce que tu peux pas retoucher, quoi.
Ah ouais. Merci, man. Je vais te laisser un peu parler des deux chansons qu'on va faire jouer, qui est Another Sunday Night et... attends une minute, je vais aller chercher le nom. Dark End of the Street. Est-ce que c'est des singles qui sont déjà sortis du prochain album, ou c'est sur l'album précédent?
Ça, c'est sur le premier. Ça, c'est sur le premier. Another Sunday Night, c'était un des premier morceau que j'avais fait pour Angry Silence. Les paroles de Manu, c'est assez simple. Ça parle d'avoir une relation à distance avec quelqu'un, quoi, une relation amoureuse à distance, et puis de partir le dimanche soir et d'être triste de ça, quoi, tu vois. Mm-hmm. Et, euh, Et ben voilà, c'est une chanson d'amour, en fait, Another Sunday Night. Et Dark End of the Street, c'est une reprise, c'est un standard de soul au départ, qu'on a essayé de réadapter et que j'aime bien. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce morceau et j'étais assez content qu'on arrive à le réadapter en rock'n'roll, quoi, un petit peu. Et voilà. Je sais pas quoi dire de plus sur ces morceaux.
Mais non, c'est bien correct. Puis, on va finir ça, notre entrevue avec ça. Avant, j'ai une autre petite question. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi que vous avez décidé d'aller vers l'anglais pour le groupe au lieu de rester dans le français? Ou est-ce que vous avez des plans de faire aussi du français à travers, vu que c'est probablement votre langue maternelle?
Ben ouais. Ben moi, j'ai longtemps chanté en anglais jusqu'à venir pour la première fois aux États-Unis à Bloomington dans l'Indiana avec une démo de mon groupe de l'époque et de faire écouter ça à mon pote Spoonboy qui est de Washington DC mais qui habitait à Bloomington à cette époque-là. Et écoute ça, il me fait Pascal, c'est super votre démo, mais par contre, j'ai une question, c'est pourquoi vous chantez en anglais? Parce que je comprends pas la moitié de ce que vous chantez. Et à partir de ce moment-là, j'avais arrêté de chanter en anglais.
Okay.
Je me suis mis vraiment dans le français à fond. Et dans le même temps, j'ai progressé en anglais parce que je faisais de plus en plus des allers-retours avec les États-Unis. Et puis, du coup, moi, j'étais vraiment, vraiment dans le français, quoi. Quand on s'est rencontré avec Manu, j'ai essayé de le pousser pour qu'il aille vers le français parce que lui, il chante tout le temps en anglais. Mais lui, il a une relation à l'anglais qui est particulière parce que son meilleur ami d'enfance et anglais, et du coup, il a vraiment appris à parler anglais quand il avait 5-6 ans, quoi. Du coup, il a une relation à l'anglais, je pense, qui est plus proche comme la vôtre, quoi, tu vois. Il a vraiment grandi avec les langues.
Ça va peut-être te surprendre, là, mais on parle pas un mot anglais.
J'y crois pas.
Non, c'est pas vrai. Je peux dire, I've learned my English and listen Eminem, so I can say, fuck you, bitch, mom work on a night shift.
Mom
spaghetti!
Mais ouais, c'est ça. Puis on s'est fait un peu sauver le cul aujourd'hui. On devait avoir une entrevue en anglais à 3h, mais avant, on avait un autre animateur avec nous qui s'appelle Marco. Mais il a lâché, puis il nous avait dit « Ah, je vais vous backer pour votre entrevue. » Puis finalement, il pouvait pas être là. Puis là, okay. Là il arrivait à 3h, puis j'étais comme « Tu sais, moi... » Je suis capable de me débrouiller en anglais, tu sais, je suis capable, mais là, de bouncer, tu sais, avoir une discussion avec quelqu'un, ok, mais là, faire une entrevue, rebondir sur les réponses, tu sais, c'est beaucoup, puis là, tu sais, ça ferait déjà quasiment 4 heures d'entrevue qu'on fait, rendu là.
Ben ouais, ben
oui. Tu sais, il y a déjà un peu de fatigue qui embarque, un peu de, tu sais, veux pas, il y a un automatisme aussi qui embarque à travers nos questions, tu sais, on peut pas se permettre d'aller aussi profond qu'on irait normalement dans une entrevue qu'on ferait 2 heures, tu sais, habituellement. Mais là, j'étais là, oh non, tabarnak. Puis finalement, ils sont pas venus. Fait qu'on a fait 1 heure de musique, on a jasé, on a mis de la musique, on s'est remis. Tu sais, on s'est comme hors-back même. Mais j'étais comme, oh, un mal pour un bien. Tu sais, c'est plate parce que musicalement, je les trouve super bons. Ils s'appellent Ship of Fools, ils sont très très bons. C'est un band de l'Ontario. Mais là, je trouve ça plate parce que j'aurais aimé ça, d'apprendre plus sur eux à travers cette petite entrevue-là. Mais bon, ça se fera une prochaine fois. Là. Ça a de l'air encore.
Ouais,
encore.
Peut-être pas à 3h du matin. Donc,
non,
c'est ça. Plus à l'aise pour pouvoir faire l'entretien en anglais. Mais je oui.
Fait que je vais te laisser plugger un peu où est-ce qu'on peut vous suivre, où est-ce qu'on peut trouver votre musique. Comment, c'est quoi les meilleures façons là, de vous voir, ben... aussi pour ceux-là qui sont en Bretagne, qui veulent vous voir en show. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous?
Eh bien, en Bretagne, je pense qu'ils seront assez vite au courant par le réseau de petites newsletters comme La Sulfateuse, qui est diffusée un petit peu partout en Bretagne, qui annonce pas mal de concerts punk en Bretagne. Et puis, sinon, sur Bandcamp, il y a une page Angry Silence où il y a moyen d'écouter du coup la démo et le premier album. Et voilà. Et sinon, ouais, nous, on espère se mettre à tourner bientôt et commencer à se faire des belles tournées, quoi. Ça commence à me manquer. Ça commence à vraiment me manquer. Ça fait depuis le Covid que j'ai pas refait de tournée et ce truc commence à me titiller. J'ai aussi envie de revenir en Amérique du Nord. Tous les potes et les potesses commencent à me manquer, quoi. Et
Justement, il y a Gertrude Battu là, dans le chat qui disait, tu sais, vous commencez à envoyer pas mal vos affaires là, dans les podcasts québécois puis tout ça. Fait qu'il se demande, lui, là, c'est quand que vous allez venir jouer ici, là.
Moi, j'espère. Mais en fait, mon rêve, notre rêve, et je pense qu'on va y arriver à un moment, on aimerait aller enregistrer le troisième album avec Steve Albini à Chicago, en fait. C'est ça
OK.
qu'on aimerait faire. Et du coup, en profiter pour faire une tournée tu vois, vers la zone de Chicago, pourquoi pas l'Est, et monter jusqu'au Canada, quoi. Ouais, c'est un
Ben
peu notre
ouais.
idée.
Puis si
Ouais,
vous
on
venez
aimerait bien faire ça.
dans notre coin, on vous hébergera
C'est cool,
aussi.
c'est cool.
Ça fait une chambre d'hôtel de moins payée. Hey, merci beaucoup de ton
Merci
temps,
à vous.
de t'être levé ce matin pour passer ton dessert, ton premier cognac de la journée avec nous. C'est super apprécié. Pour de vrai, on a écouté un peu tantôt ce que vous faisiez. Moi, j'ai trouvé ça super cool. Il y a une petite vague un peu old school dans le sonoriquement. J'aime vraiment ça. Ça me fait penser à un peu le vieux punk que j'écoutais quand j'étais un petit peu plus jeune. J'ai vraiment, vraiment apprécié entendre ces chansons-là. C'est clair que j'ai hâte d'entendre ce qui s'en vient. J'aimerais ça que vous nous l'envoyiez pour en faire la critique, mec, ça sort. On fait un deal là-dessus? Puis vous
Ouais.
reviendrez en entrevue, puis mec, vous venez au
Avec.
Québec, on va passer une
Ah ben.
entrevue en studio ici direct en live.
Ah
Alright,
super.
ça!
Avec grand plaisir. Avec grand plaisir.
Alright, merci beaucoup Pascal,
Merci.
c'était un plaisir de passer du temps avec toi ce matin.
Merci à vous. Amusez-vous bien. Hein. De toute façon, je vais vous regarder sur Twitch en même temps que je me prends un deuxième cognac. Oh yes, merci.
Alright, merci! Yes sir, bye!
Allez, salut.
Salut!
the dark here of the streets. That is where we always meet. Hiding in shadows where we don't belong. Living in the darkness to hide along. You and me at the darkness of the streets.
printemps que tu travailles sans jamais manquer une journée d'ouvrage. Toi tu vis le rêve américain, la petite routine pis tout va bien. Mais là tu rends ta job un bon matin pis on mis la clé dans le moulin. Ton fond de pension, ton gros salaire, des années de service parti en poussière. Pas de diplôme, t'as pas de métier, comment tu fais pour te payer? Ton gros bateau, ta grosse cabane, les nouveaux seins de ta bonne femme. Le truc de l'année à 60 000, les voyages dans le sud avec la famille. Un beau chalet sur le bord du lac, là t'es mal pris en tabarnak! Monte en ville pour qu'on t'engage, mais y'a pas personne qui a de l'ouvrage. T'es ben trop vieux pour travailler, t'as mal dans le dos, tu vas te blesser. Mais là tu trouves une job dans le bas de l'échelle, tu ramasses la marde avec une pelle. On se fiasse de l'heure, c'est pas grand chose, tu peux même plus gâter ta grosse. Il te reste plus rien, t'as plus de raison de te lever le matin. La banque a saisi ta maison, t'as même plus une scène noire à ton nom. Mais si tu te consoles, ça pourrait être bien pire. Au moins t'es pas en train de mourir. T'as quand même goût de poigner ton gosse, shooter dans le tas, rien pour le